Aménagement du jardin et réception manquée. Ils résolurent de ménager désormais leur peine et leur argent. Un ébondage de temps à autre suffirait au verger. Les contre-espaliers furent proscrits et ils ne remplaceraient pas les arbres morts. Mais il allait se présenter des intervalles fort vilains, à moins de détruire tous les autres qui restaient debout. Comment s'y prendre ? Pécuchet fit plusieurs épures en se servant de sa boîte de mathématiques. Bouvard lui donnait des conseils. Il n'arrivait à rien de satisfaisant. Heureusement qu'ils trouvèrent dans leur bibliothèque l'ouvrage de Boitard intitulé « L'architecte des jardins ». L'auteur les divise en une infinité de genres. Il y a d'abord le genre mélancolique et romantique, qui se signale par des immortels, des ruines, des tombeaux et un ex-voto à la Vierge, indiquant la place où un seigneur est tombé sous le fer d'un assassin. On compose le genre terrible avec des rocs suspendus, des arbres fracassés, des cabanes incendiées, le genre exotique en plantant des cierges du Pérou pour faire naître des souvenirs à un colon ou à un voyageur. Le genre grave doit offrir, comme Ermenonville, un temple à la philosophie. Les obélisques et les arcs de triomphe caractérisent le genre majestueux, de la mousse et des grottes, le genre mystérieux, un lac, le genre rêveur. Il y a même le genre fantastique, dont le plus beau spécimen se voyait naguère dans un jardin württembergeois, car on y rencontrait successivement un sanglier, un ermite, plusieurs sépulcres et une barque se détachant d'elle-même du rivage pour vous conduire dans un boudoir où des jets d'eau vous inondaient quand on se posait sur le sofa. Devant cet horizon de merveille, Bouvard et Pécuchet eurent comme un éblouissement. Le genre fantastique leur parut réservé aux princes. Le temple à la philosophie serait encombrant. L'ex-voto à la Madone n'aurait pas de signification, vu que le manque d'assassins, et tant pis pour les colons et les voyageurs, les plantes américaines coûtaient trop cher. Mais les rocs étaient possibles, comme les arbres fracassés, les immortels et la mousse. Et dans un enthousiasme progressif, après beaucoup de tâtonnements, avec l'aide d'un seul valet et pour une somme minime, ils se fabriquèrent une résidence qui n'avait pas d'analogue dans tout le département. La charmille ouverte, çà et là, donnait jour sur le bosquet, remplie d'allées sinueuses, en façon de labyrinthe. Dans le mur de l'espalier, ils avaient voulu faire un arceau sous lequel on découvrirait la perspective. Comme le chaperon ne pouvait se tenir suspendu, il en était résulté une brèche énorme avec des ruines par terre. Ils avaient sacrifié des asperges pour bâtir à la place un tombeau étrusque, c'est-à-dire un quadrilatère en plâtre noir ayant 6 pieds de hauteur et l'apparence d'une niche à chien. 4 sapinettes aux angles flanquaient ce monument qui serait surmonté par une urne et enrichi d'une inscription. Dans l'autre partie du potager, une espèce de rialto enjambait un bassin, offrant sur ses bords des coquilles de moules incrustées. La terre buvait l'eau, n'importe, il se formerait un fond de glaise qui la retiendrait. La cahute avait été transformée en cabane rustique grâce à des verres de couleur. Au sommet du vigneau, 6 arbres équarris supportaient un chapeau de fer blanc à pointe retroussée, le tout signifiait une pagode chinoise. Ils avaient été sur les rives de l'Orne choisir des granites, les avaient cassés, numérotés, rapportés eux-mêmes dans une charrette, puis avaient joint les morceaux avec du ciment en les accumulant les uns par-dessus les autres, et au milieu du gazon se dressait un rocher pareil à une gigantesque pomme de terre. Quelque chose manquait au-delà pour compléter l'harmonie. Ils abattirent le plus gros tilleul de la charmille, aux 3/4 mort du reste, et le couchèrent dans toute la longueur du jardin, de telle sorte qu'on pouvait le croire apporté par un torrent ou renversé par la foudre. La besogne finie, Bouvard, qui était sur le perron, cria de loin « Ici, on voit mieux !» fut répété dans l'air. Pécuchet répondit « J'y vais !»«
Y vais !»«
Tiens, un écho !»«
Écho !»
Le tilleul, jusqu'alors, l'avait empêché de se produire, et il était favorisé par la pagode faisant face à la grange dont le pignon surmontait la charmille. Pour essayer l'écho, ils s'amusèrent à lancer des mots plaisants. Bouvard en hurla d'obscènes. Ils avaient été plusieurs fois à Falaise, sous prétexte d'argent à recevoir, et Bouvard en revenait toujours avec de petits paquets qu'il enfermait dans sa commode. Pécuchet partit un matin pour se rendre à Bretteville et rentra fort tard avec un panier qu'il cacha sous son lit. Le lendemain, à son réveil, Bouvard fut surpris. Les deux premiers ifs de la grande allée, qui la veille encore était sphérique, avaient la forme de paon, et un cornet avec deux boutons de porcelaine figurait le bec et les yeux. Pécuchet s'était levé dès l'aube, et, tremblant d'être découvert, il avait taillé les deux arbres à la mesure des appendices expédiés par du Mouchel. Depuis 6 mois, les autres, derrière cela, imitaient plus ou moins des pyramides, des cubes, des cylindres, des cerfs ou des fauteuils. Mais rien n'égalait les paons. Bouvard le reconnut avec de grands éloges. Sous prétexte d'avoir oublié sa bêche, il entraîna son compagnon dans le labyrinthe, car il avait profité de l'absence de Pécuchet pour faire, lui aussi, quelque chose de sublime. La porte des champs était recouverte d'une couche de plâtre, sur laquelle s'alignaient en bel ordre 500 fourneaux de pipes, représentant des Abdelkader, des nègres, des turcos, des femmes nues, des pieds de cheval et des têtes de mort. Comprends-tu mon impatience ?
Ah, oh, je crois bien !
Et dans leur émotion, ils s'embrassèrent. Comme tous les artistes, ils eurent le besoin d'être applaudis et Bouvard songea à offrir un grand dîner.
« Prends garde, » dit Pécuchet, « tu vas te lancer dans les réceptions, c'est un gouffre !»
La chose pourtant fut décidée. Depuis qu'ils habitaient le pays, ils se tenaient à l'écart, et tout le monde, par désir de les connaître, accepta leur invitation, sauf le comte de Faverges, appelé dans la capitale pour affaires. Ils se rabattirent sur M. Huret, son factotum. Bellejambe, l'aubergiste, ancien chef à Lisieux, devait cuisiner certains plats. Il fournissait un garçon, Germaine avait requis la fille de basse-cour, Marianne, la servante de Mme Bordin, viendrait aussi. Dès 4 heures, la grille était grande ouverte et les deux propriétaires, pleins d'impatience, attendaient leurs convives. Hurel s'arrêta sous la hêtraie pour remettre sa redingote. Puis, le curé s'avança, revêtu d'une soutane neuve, et un moment après, Monsieur Fourreau, avec un gilet de velours. Le docteur donnait le bras à sa femme, qui marchait péniblement en s'abritant sous son ombrelle. Un flot de rubans roses s'agita derrière eux, c'était le bonnet de Madame Bordin, habillée d'une belle robe de soie gorge de pigeon. La chaîne d'or de sa montre lui battait sur la poitrine et les bagues brillaient à ses deux mains couvertes de mitaines noires. Enfin, parut le notaire, un panama sur la tête, un lorgnon dans l'œil, car l'officier ministériel n'étouffait pas en lui l'homme du monde. Le salon était ciré à ne pouvoir s'y tenir debout. Les 8 fauteuils d'Utrecht s'adossaient le long de la muraille. Une table ronde dans le milieu supportait la cave à liqueur, et on voyait au-dessus de la cheminée le portrait du père Bouvard. Les embûches, reparaissant à contre-jour, faisaient grimacer la bouche, louchaient les yeux et un peu de moisissure aux pommettes ajoutaient à l'illusion des favoris. Les invités lui trouvèrent une ressemblance avec son fils, et Madame Bordin ajouta, en regardant Bouvard, qu'il avait dû être un fort bel homme. Après 1 heure d'attente, Pécuchet annonça qu'on pouvait passer dans la salle. Les rideaux de calicot blanc à bordure rouge étaient, comme ceux du salon, complètement tirés devant les fenêtres
et le soleil, traversant la toile, jetait une lumière blonde sur le lambris qui avait pour tout ornement un baromètre. Bouvard plaça les deux dames auprès de lui, Pécuchet, le maire, à sa gauche, le curé à sa droite, et l'on entama les huîtres. Elle sentait la vase. Bouvard fut désolé, prodigua des excuses, et Pécuchet se leva pour aller dans la cuisine faire une scène à belles jambes. Pendant tout le premier service, composé d'une barbue entre un vol au vent et des pigeons en compote, la conversation roula sur la manière de fabriquer le cidre, après quoi on en vint aux mets digestes ou indigestes. Le docteur, naturellement, fut consulté. Il jugeait les choses avec scepticisme, comme un homme qui a vu le fond de la science, et cependant ne tolérait pas la moindre contradiction. En même temps que la Loyau, on servit du Bourgogne. Il était trouble. Bouvard, attribuant cet accident au rinçage de la bouteille, en fit goûter trois autres, sans plus de succès, puis versa du Saint-Julien, trop jeune évidemment, et tous les convives se turent. Hurel souriait sans discontinuer. Les pas lourds du garçon résonnaient sur les dalles. Madame Vaucorbeil, courtaude et l'air bougon, elle était d'ailleurs vers la fin de sa grossesse, avait gardé un mutisme absolu. Bouvard, ne sachant de quoi l'entretenir, lui parla du théâtre de Caen. « Ma femme ne va jamais au spectacle, » reprit le docteur. « Monsieur Maresco, quand il habitait Paris, ne fréquentait que les Italiens. « Moi, » dit Bouvard, « je me payais quelquefois un parterre au vaudeville pour entendre des farces. » Fourreau demanda à Madame Bordin si elle aimait les farces. « Ça dépend de quelle espèce, » répondit-elle. Le maire la lutinait, elle ripostait aux plaisanteries. Ensuite, elle indiqua une recette pour les cornichons. Du reste, ses talents de ménagère étaient connus et elle avait une petite ferme admirablement soignée. Fourreau interpella Bouvard. « Est-ce que vous êtes dans l'intention de vendre la vôtre ?»« Oh, mon Dieu, jusqu'à présent, je ne sais trop comment. Pas même la pièce des écales ?» reprit le notaire. « Ce serait à votre convenance, Madame Bordin ?» La veuve répliqua en minaudant. « Oh, les prétentions de M. Bouvard seraient trop fortes. Oh, on pouvait peut-être l'attendrir. Oh, je ne serais pas. Bah, si vous l'embrassiez. Essayons tout de même, » dit Bouvard, et il la baisa sur les deux joues aux applaudissements de la société. Presque aussitôt, on déboucha le champagne, dont les détonations amenèrent un redoublement de joie. Pécuchet fit un signe, les rideaux s'ouvrirent et le jardin apparut. C'était dans le crépuscule quelque chose d'effrayant. Le rocher, comme une montagne, occupait le gazon. Le tombeau faisait un cube au milieu des épinards. Le pont vénitien, un accent circonflexe par-dessus les haricots. Et la cabane au-delà, une grande tache noire, car ils avaient incendié son toit pour la rendre plus poétique. Les ifs, en forme de serpe ou de fauteuil, se suivaient jusqu'à l'arbre foudroyé qui s'étendait transversalement de la charmille à la tonnelle, où des pommes d'amour pendaient comme des stalactites. Un tournesol, ça et là, étalait son disque jaune. La pagode chinoise, peinte en rouge, semblait un phare sur le vigneau. Les becs des paons, frappés par le soleil, se renvoyaient des feux, et derrière la claire-voie, débarrassée de ses planches, la campagne toute plate terminait l'horizon. Devant l'étonnement de leurs convives, Bouvard et Pécuchet ressentirent une véritable jouissance. Madame Bordin surtout admira les paons, mais le tombeau ne fut pas compris, ni la cabane incendiée, ni le mur en ruine. Puis chacun, à tour de rôle, passa sur le pont. Pour remplir le bassin, Bouvard et Pécuchet avaient charrié de l'eau pendant toute la matinée. Elle avait fui entre les pierres du fond mal jointes et de la vase les recouvrait. Tout en se promenant, on se permit des critiques. « Ah, à votre place, j'aurais fait cela. Oh, les petits pois sont en retard. Oh, ce coin, franchement, n'est pas propre. Ah, avec une taille pareille, jamais vous n'obtiendrez des fruits. Bouvard fut obligé de répondre qu'il se moquait des fruits. Comme on longeait la charmille, il dit d'un air finaud « Ah, voilà une personne que nous dérangeons, mille excuses !» La plaisanterie ne fut pas relevée et tout le monde connaissait la dame en plâtre. Après plusieurs détours dans le labyrinthe, on arriva devant la porte aux pipes. Des regards de stupéfaction s'échangèrent. Bouvard observait le visage de ses hôtes et, impatient de connaître leur opinion, « Qu'en dites-vous ? » Madame Bordin éclata de rire. Tous firent comme elle. Le curé poussait une sorte de gloussement. Hurel toussait, le docteur en pleurait. Sa femme fut prise d'un spasme nerveux. Et Fourreau, homme sans gêne, cassa un Abdelkader qu'il mit dans sa poche comme souvenir. Quand on fut sorti de la charmille, Bouvard, pour étonner son monde avec l'écho, cria de toutes ses forces « Serviteurs, mesdames !» Rien, pas d'écho. Cela tenait à des réparations faites à la grange, le pignon et la toiture étant démolis. Le café fut servi sur le vigneau, et les messieurs allaient commencer une partie de boule quand ils virent en face, derrière la claire-voie, un homme qui les regardait. Il était maigre et hâlé, avec un bâton, pantalon rouge en lambeaux, une veste bleue sans chemise, la barbe noire taillée en brosse, et il articula d'une voix rauque « Donnez-moi un verre de vin !» Le maître et l'abbé Geoffroy l'avaient tout de suite reconnu, c'était un ancien menuisier de Chavignoles. « Allons, Gorju, éloignez-vous, dit M. Fourreau. On ne demande pas l'aumône. »« Moi, l'aumône ?» s'écria l'homme exaspéré. « J'ai fait 7 ans, la guerre en Afrique. Je relève de l'hôpital, pas d'ouvrage. Faut dire que j'assassine, l'ordonnon !» Sa colère elle-même tomba, et les deux poings sur les hanches, il considérait les bourgeois d'un air mélancolique et gouailleur. La fatigue des bivouacs, l'absinthe et les fièvres, toute une existence de misère et de crapules se révélaient dans ses yeux troublés. Ses lèvres pâles tremblaient en lui découvrant les gencives. Le grand ciel empourpré l'enveloppait d'une lueur sanglante, et son obstination à rester là causait une sorte d'effroi. Bouvard, pour en finir, alla chercher le fond d'une bouteille. Le vagabond l'absorba gloutonnement, puis disparut dans les avoines en gesticulant. Ensuite, on blâma M. Bouvard. De telles complaisances favorisaient le désordre. Mais Bouvard, irrité par l'insuccès de son jardin, prit la défense du peuple. Alors tous parlèrent à la fois. Fourreau exaltait le gouvernement. Hurel ne voyait dans le monde que la propriété foncière. L'abbé Geoffroy se plaignit de ce qu'on ne protégeait pas la religion. Pécuchet attaqua les impôts. Madame Bordin criait par intervalles « Moi, d'abord, je déteste la République !» Et le docteur se déclara pour le progrès, car enfin, monsieur, nous avons besoin de réformes. « Possible !» répondit Fourreau. « Mais toutes ces idées-là nuisent aux affaires. »« Je me fiche des affaires !» s'écria Pécuchet. Vaucorbeil poursuivit. « Au moins, donnez-nous l'adjonction des capacités. Bouvard n'allait pas jusque-là. C'est votre opinion ? Reprit le docteur. Vous êtes toisé. Bonsoir. Et je vous souhaite un déluge pour naviguer dans votre bassin. Moi aussi, je m'en vais, dit un moment après M. Fourreau, et désignant sa poche, où était l'Abdelkader, si j'ai besoin d'un autre, je reviendrai. Le curé, avant de partir, confia timidement à Pécuchet qu'il ne trouvait pas convenable ce simulacre de tombeau au milieu des légumes. Hurel, en se retirant, salua très bas la compagnie. Monsieur Marescot avait disparu après le dessert. Madame Bordin recommença le détail de ses cornichons, promit une seconde recette pour les prunes à l'eau-de-vie, fit encore 3 tours dans la grande allée, mais en passant près du tilleul, le bas de sa robe s'accrocha, et ils l'entendirent qui murmurait « Mon Dieu, quelle bêtise que cet arbre !» Jusqu'à minuit, les deux amphitryons sous la tonnelle exhalèrent leur ressentiment. Sans doute, on pouvait reprendre dans le dîner 2 ou 3 petites choses par-ci par-là. Et cependant, les convives s'étaient gorgés comme des ogres, preuve qu'ils n'étaient pas si mauvais. Mais pour le jardin, tant de dénigrements provenaient de la plus basse jalousie. Et, s'échauffant tous les deux, L'eau manque dans le bassin, patience. On y verra jusqu'à un signe des poissons.
À peine s'ils ont remarqué la pagode. Prétendre que les ruines ne sont pas propres est une opinion d'imbécile.
Et le tombeau une inconvenance? Pourquoi inconvenance? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'en construire un dans son domaine? Je veux même m'y faire enterrer.
Ne parle pas de ça, dit Pécuchet. Puis ils passèrent en revue les convives. Oh, le médecin m'a l'air d'un joli poseur.
As-tu observé le ricanement de Marisco devant le portrait?
Quel goujac, monsieur le maire, quand on dîne dans une maison, que diable, on respecte les curiosités.
Madame Bordin, dit Bouvard, oh, c'est une intrigue, allez, laisse-moi tranquille.
Dégoûté du monde, ils résolurent de ne plus voir personne, de vivre exclusivement chez eux, pour eux seuls.